Et alors là, partout dans les réunions, par exemple, dans les corvées, comme le dépiquage.
Vous disiez corvée, excusez-moi.
Oui.
Ouais. C'est un corvées. Mot qui n'est pas répandu partout, ça.
Non, non, c'était chez nous, on était comme ça.
Ouais. Toutes les corvées, ça désigne tous les travaux collectifs, c'est ça?
C'est ça, le dépiquage.
Qui nécessite une entraide.
La vendange un peu, mais enfin, il n'y a pas beaucoup de raisins chez nous. Le gerboyage aussi.
Oui.
Là, c'était un peu. Mais pour le dépiquage, il fallait qu'il soit 21. Parce que la machine de l'époque imposait qu'il y avait 21 servants.
Ah, oui.
Alors là, ça faisait un gros repas.
21 personnes, il fallait.
Oui, oui, il fallait 21 personnes. C'était extraordinairement pénible.
Mais la machine, la batteuse, alors?
Ah, ça, moi, j'ai vu tout. J'ai vu la machine à vapeur qu'il fallait traîner par des bœufs.
Ouais.
J'ai vu la machine à manège, même. Chez nous, elle ne venait pas, mais il y en avait une dans le village qui marchait. Alors ça, c'était là. Il y avait quatre leviers, si vous voulez, énormes, quatre barres. On attachait une paire de beurre au bout de chacune, et ça faisait tourner un engrenage qui, alors pas une barre circulaire, transmettait le mouvement à la batteuse, qui était grande comme un peu plus que cette table. Alors, on mettait le blé là-dedans, enfin, le blé, quoi, la gerbe, là-dedans. Et alors, d'un côté sortait le grain, et de l'autre la paille, voilà tout. Alors quand même, il y avait une nuance. À ce moment-là, la paille et le grain n'étaient pas séparés. Alors là, il fallait la paille, si, pas, ça ne veut pas dire, ça veut dire la balle de blé, c'est pas séparé du grain, il fallait donc le vanner. Il en était de même avec le rouleau, parce que j'ai vu ça aussi, j'ai vu des gens qui employaient le rouleau. Ce n'est pas ancien, ça, vous le savez sans doute, le rouleau est une chose qui date de la seconde moitié du 19e siècle.
Ah, j'ignorais. Je croyais au contraire que c'était ancien.
Oui. Ouais. Alors ça s'est venu d'Italie, par exemple.
Ah.
Oui. Alors c'était de jolies
Mais
pierres.
Canal ça peut venir d'Italie au milieu du 19e siècle.
C'est curieux, je ne sais pas ça.
Il y aurait eu une émigration à ce moment-là.
Oh, peut-être. C'est venu peu à peu. Ça peut se faire. Parce que c'était un progrès quand même, parce qu'on battait. Chez nous, on s'en servait, mais pas pour le blé.
Ouais.
On battait les fèves, on battait les pois, on battait les pois, non, on battait au fléau. J'ai vu ça aussi.
Ouais.
Les haricots.
Avant le rouleau, ça devait être le fléau alors.
Oui, oui. Le fléau, c'est ça. Oui, mais le blé au fléau, je ne l'ai pas vu. On battait au fléau des petites récoltes.
Ouais.
Chez nous, il n'y a pas. C'est la polyculture, mais il y a quand même des choses qui sont tout à fait en petite quantité, comme par exemple les fèves, le haricot, les poires, alors ça on le battait au fléau. Les fèves non, les fèves on les battait au rouleau.
Ah.
Alors, il fallait ensuite les vanner et tout ça. Avec des bœufs, ce n'était pas très commode. J'ai même une autre chose, j'ai vu quelque part, je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y avait dans nos régions, jusque dans nos régions, le battage par trépignement des animaux, piétinement des animaux, vous voyez. Mm-hmm. Est-ce que je vais trouver ça? Je l'ai trouvé encore tout à l'heure. Moi, pour trouver les choses là-dedans, le châtaignier que je ne trouvais pas, c'est petit. Ça existait un peu partout en Espagne, c'est peut-être encore au début de mon époque. Ça n'a pas été là. Ça peut être encore assez.
Et c'était les animaux que le trait qui faisait ça?
Alors justement, chez nous, ça posait un problème parce qu'il n'y avait pas de chevaux. Dans cette terre-là, les chevaux avaient disparu. Ça aussi, je le tiens de Duby, je crois, de l'histoire de la France rurale. Ils avaient disparu vers le 16e siècle. Et remplacés par les bœufs, parce que les bœufs sont beaucoup plus forts. Mmh. Et chez nous, il y avait des coteaux. Bien que ce soit la Haute-Garonne, ce sont les coteaux du Gers.
Oui. Ouais.
Ah, ça,
c'est très, très vallonné.
Vous savez comment se sont faits les départements? On a flanqué un sort de peinture et un pinceau. Au député de la. Qui avait créé la Constitution, là. Les députés, par conséquent, le tiers état et tout ça, ils se sont mis d'accord entre eux pour faire le département, ils ont mis comme ça et ça a marché. Sans savoir si on parlait le même dialecte, si c'était la province, ils s'en foutaient, tout ça. Alors vous comprenez, c'est pour ça que forme ce truc. Mais justement, la limite, c'est dans une lisière, qu'il y a une lisière de bois, qui d'ailleurs est marquée, elle se voit encore sur la carte Michelin, qui était la forêt du Boucon. Alors il y en a des petits flocons un peu partout là, et là il y a la forêt, entre rien et fort, avec cette fameuse forêt. Cette forêt royale, ça s'appelait. Ça, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, mais c'est quelque chose d'extraordinaire.
Pas du tout.
Les rois, comme toutes les républiques d'ailleurs, manquent d'argent. C'est une chose qu'on a toujours aussi. Alors à l'époque de Louis XV, ils se sont dit, mais je crois qu'il doit y avoir à nous par là des terres qui ont dû nous être chippées, d'une façon ou d'une autre. Alors, il y avait, c'était le cas d'une, de la forêt de Beaupuy, qui est en Trafalgarien, qui était royale. Ils ont trouvé qu'elle était, elle appartenait au roi. Alors, les autres ont fouillé. Ils ont trouvé un grimoire incompréhensible datant du XVe siècle, écrit en, peut-être, peut-être en occitan, ou en mauvais, non pas en français, en occitan peut-être, mais en tout cas, il était rongé des mythes et tout ça. Alors, ça ne pouvait rien. Ils avaient acheté cette forêt au compte de... Pas au roi quand même, non, parce qu'à l'époque, ça appartenait au... Comment ça s'appelait? Pas au duc de Castres non plus, c'était le... Ah, je me rappelle pas. Enfin, en tout cas, au seigneur, à la famille de seigneur qui était à l'époque, qui régnait, qui gouvernait à cette époque-là. Alors, le roi n'a pas voulu marcher, il a fallu faire un procès, envoyer ça, envoyer les gens à Paris. Il fallait que le procès se passait dans le... dans le la logis du roi. Il fallait que Rieux, par conséquent, se paie le luxe d'envoyer... Les gens étaient d'une pauvreté extraordinaire, il fallait qu'ils se paient le luxe d'envoyer là-bas quelqu'un pour plaider leur cause. Et alors, oui, non, ça a duré comme ça jusqu'à la Révolution. Le roi avait dit, bon, c'est comme ça, on le limite. On fait un fossé, pardon, excusez du peu, un fossé qui avait 3 mètres de largeur et quelque chose comme 2 mètres de hauteur. À travers les arbres, je vous assure que c'est du plaisir de faire ça. Alors là, il y avait ça. Alors on continuait de discuter. Sous la Révolution, on aurait pu s'attendre que ce soit fini. Non, 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 ça a été pareil. Ça n'a rien changé. Et c'est finalement, en 1822, je crois que je me souviens de ça, que ça a été enfin réglé, on l'a donné à la commune. Voilà la forêt. Eh bien, ça, c'était la limite. Et, de là, d'ailleurs, cette limite, c'est la première terrasse de la Garonne. Il y en a eu 4, et ça, c'était la première. Ça devient plat, et c'était en hauteur. Eh bien, là, c'était la limite du Gers, ça aurait dû être la limite du Gers. Enfin, c'est la limite, en tout cas, des coteaux de Gascogne. À partir de ce bois, chez nous, c'est plein de vallées, de fallons, de bosquets, comme ça. Voilà comment ça se passe. Alors, oui, nous parlions d'autre chose, là, je ne sais pas. Je vais trouver ça. C'est toujours quand on cherche quelque chose, vous le savez, quand on ne trouve pas.
Vous cherchez le
dépicage.
Le dépicage par les animaux, ouais.
Oui, je ne sais pas où j'ai vu ça. J'ai des tas de notes. Les poids et mesures, tout ça.
Et vous l'avez vu, ça, le dépiquage avec les animaux?
Non.
Non.
Je n'ai pas vu le dépiquage par les animaux. Je vous dis, j'ai vu le dépiquage du blé. Alors le dépiquage des petites cultures était fait au rouleau. Et pour le blé, alors, je vous dis, il y en a quelques-uns qui le faisaient encore au rouleau. Et même à la machine à manège. Je ne l'ai vu qu'une fois, ça. Hein. Machine à manège, rouleau, je ne l'ai vu qu'une fois.
Machine à manège.
Ben c'est celle dont je vous parle, avec ces quatre barres là. Ah oui, elle existe encore, il y en avait une chez nous, mais elle ne travaillait plus. Et alors après, ça a été la locomobile, locomobile par, je ne sais pas moi, par sans doute pour la flatter, il fallait 3 ou 4 paires de bœufs pour la faire monter aux côtes de chez nous. Ouais. Elle était à vapeur celle-là. Alors on commençait par envoyer tout le charbon qu'il fallait, et puis ça montait. Il fallait des peu costauds, hein, pas des vaches, parce que les vaches ne sont pas assez fortes. Bon, après, ça a été plus tard, ce qu'on appelait la routière. Alors, la routière, ça marchait, il y avait un peu comme un tracteur à vapeur aussi. Mais alors, pas de loi, non, pas de l'homme, je veux dire, hein. Ça ne marchait pas bien vite. Mais c'était d'une force extraordinaire. Alors là, celle-là, elle montait elle était à vapeur aussi, mais elle montait les coteaux avec son batteur et tout ce qui s'ensuit. Le batteur était extraordinairement lourd. Voilà. Et alors après, ça a été les tracteurs, mais pas des petits tracteurs, comme on voit, des tracteurs énormes qui venaient et qui transmettaient par une courroie à la batteuse. C'est cela que j'ai vu, moi. Non, en dernier lieu, il y a eu finalement la moissonneuse batteuse. Ce qu'il y avait aussi, c'est que c'est la moisson qui a été faite par diverses manières. Autrefois, on la faisait à la foule. À l'époque de mon grand-père, en 1900, on le faisait à la faux. C'est vrai qu'en 1904, c'est qu'il a acheté une faucheuse qui servait à faucher le frein et qui pouvait s'adapter pour faucher le blé.
Ah oui.
Seulement, pardon, adapter, c'est bien joli, mais il fallait être deux sur la machine et deux ou trois autres derrière. Parce que moi, je l'ai fait quelquefois, ça. Il y en avait un qui devait faire marcher les bœufs et l'autre qui s'occupait de la machine. Parce qu'il fallait soulever avec le pied, de temps en temps, les gerbes qui étaient tombées. Non, quand les gerbes tombaient, elles étaient retenues par quelque part une clé comme ça. Alors avec le pied, de temps en temps, on lâchait. Alors ça faisait une javelle, c'est-à-dire une moitié de gerbe. Alors ce qui était derrière repoussait la javelle pour que dans le tour suivant, ça ne soit pas piétiné par les bœufs et par la machine. Alors il fallait donc des gens qui se dépêchent là, d'enlever cette javelle. Voilà comment ça marchait. Et alors après, il fallait aller dans les champs, faire des liens avec la paille. Ça, vous savez, on racontera ça dans 1000 ans, personne n'y croira. Avec de la paille de blé, on faisait des liens, d'une solidité incroyable. Et il faisait ça en un clin d'œil. Alors, il y en avait qui mettaient une javelle sur l'autre, ça faisait une gerbe. Alors, l'autre, les autres qui liaient. Et après, il fallait. C'était un travail énorme.
Est-ce que vous les avez vus faucher ?
Faucher, pas le. Non, je n'ai pas vu faucher.
Et vous l'avez entendu raconter ? Est-ce qu'ils étaient plusieurs ? Ils devaient être plusieurs.
Ah oui, au moins une douzaine, il y avait.
Une douzaine.
Et alors, il y en avait un qui partait, puis l'autre qui suivait avec un certain écart, parce qu'il ne fallait pas qu'ils se fauchent les pieds quand même.
Évidemment, oui.
Alors, ça, c'était vraiment très pénible. Surtout chez nous, il y avait une douzaine d'hectares de prés.
Ouais.
Bon, c'est du mauvais prix, mais enfin, c'était... il fallait le faucher quand même. Quoi.
Ouais.
Ça, c'était quand même très pénible. Et alors, il y avait du foin.
Et à la faucille, est-ce que vous les avez entendus parler de...
Non.
Non.
La faucille était utilisée, mais pour de toutes petites choses. Pour aller chercher de l'herbe au lapin, on cherchait ça. On appelait ça les boulanges.
Les boulanges.
Et alors, on allait chercher de la luzerne, comme ça, ou des pommes, des choses comme ça pour les lapins. Mais ça ne s'employait pas pour autre chose. La faux, actuellement, il n'y a plus personne qui sache l'utiliser.
Oui, c'est vrai.
Même le voisin chez moi, qui a été agriculteur toute sa vie, ne sait pas utiliser une faux. Et c'est vraiment très difficile.
Certes.
Quand on dira à nos successeurs, dans 100 ans, qu'on pouvait faucher avec ça, ils ne le croiront jamais. Parce que vous pouvez, ils essaieront et ils verront que ça ne marche jamais. Parce qu'il faut savoir la piquer, comme il disait, comme il faut.
Oui, oui.
Il faut savoir avec une pierre, repasser encore.
Ouais.
Et alors une pierre, pas n'importe lesquelles.
Ouais.
Parce qu'il y en a qui abîment le tranchant et d'autres au contraire. Il faut une pierre qui est vraiment en pierre, pas une pierre artificielle. Alors si on ne le fait pas comme ça, ça ne marche pas.
Et alors justement, comment se les procurer les pierres à faux là-bas?
Ah mais on en vendait dans les quincailleries.
C'était plus l'époque où les ambulants passaient.
Ah,
parce qu'il y avait des colporteurs spécialisés dans ça autrefois.
Mais... Il en passait autrefois, mais maintenant là il n'en passait plus.
D'accord.
Oh, de mon temps, il en passait très peu quand même. Dans la commune, j'en ai connu un. Mais il ne passait plus depuis longtemps.
Ouais.
Il avait changé de métier. Il avait fait d'ailleurs ses tous les métiers. Le seul colporteur qu'on voyait, c'était le fameux Caïfa, qui lui venait un peu partout. Vous savez comment ça marchait. Et alors, après avoir inventé ou employé cette machine, la faucheuse, on avait découvert la faucheuse lieuse. Là, elle liait, la gerbe, elle la mettait de côté. C'est déjà un grand progrès. Alors maintenant, c'est la moissonneuse batteuse. La lieuse liait avec des cordes. Oh, il y en a encore, j'en ai vu par là. Mais elle ne s'emploie plus depuis longtemps. Alors, je ne comprends pas comment ils pouvaient faire pour s'occuper du foin pendant le mois de juin et finir ce qu'ils avaient à faire dans le foin pour se mettre à la moisson. Parce que le foin, c'était un travail terrible. Il était fauché, d'accord, mais chez nous, on n'avait pas de faneuse. La faneuse, il fallait de temps en temps, quand il commençait à être sec, le retourner. Et bien ça, c'était la même. Chez moi, il n'y avait pas de faneuse. Il y avait une machine qui existait, mais on ne l'avait pas. Et alors après, il fallait, quand on avait fait ça, d'abord, il fallait que tout aille bien, parce que s'il pleuvait, le foin ne valait rien. Alors, ils avaient une râteleuse. Un râteau, disait-il, les restettes. Alors c'était un grand qui lui, alors, ramassait tout ça, et en faisait des lignes comme ça. Et alors là, il fallait le mettre vite en tas, parce que s'il pleuvait, alors il fallait faire l'état. Et quand on avait ça, il fallait venir avec les bœufs et les charrettes, il fallait quelqu'un qui sache vraiment remplir la charrette. Il fallait que ce soit très régulier, et ça formait un rectangle, là, ou un cube, et avec un câble, mais si ça avait été mal fait, c'était tombé. D'autant plus que je vous dis qu'il y a des cotons chinois souvent. Bon, alors, il fallait ça. Et après, il fallait poser ça dans une foignière, comme on disait chez nous, un fenil, la Genero. Et voilà. Après, ils ont trouvé de temps en temps de faire des balles. Il est venu chez nous quelquefois, me souviens qu'une fois, il était venu des Espagnols, qui avait une machine, l'autre, tout à fait simple, qui consistait à mettre beaucoup de foin dans une espèce de caisson, et après, avec un levier, on le serrait, on passait les fils de fer, et voilà, seulement là, il y avait des machines qui faisaient, ça à l'époque, mais un peu plus tard en tout cas. En tout cas, moi, il fallait plus faire ça. Chez nous, on le faisait, ça. Mon grand-père vendait du foin ici à Toulouse, il y avait un certain monsieur Esca qui achetait du foin, on vendait à l'époque pas mal. Il venait avec une énorme charrette qui allait traîner par un mulet et un cheval. Et alors, chose curieuse, il y avait sous la charrette une clé, une espèce de clé qui faisait un mac. Il se couche là-dedans, sans rien dire aux chevaux ni aux mulets, au cheval ni aux mulets. Ils arrivaient tous les deux à Toulouse, il n'y avait pas d'auto à l'époque. Ils arrivaient chez M. Esca, ils passaient par toutes les rues sans se tromper. C'est curieux. Voilà comment ça se passait. Il y avait des tas de travaux comme ça qui étaient.
Ils venaient vendre du foin en ville parce qu'il y avait aussi des animaux.
Il y avait des chevaux en ville, beaucoup plus que chez nous. Et des bœufs, il n'y en avait pas, mais il y avait des animaux, ça, c'est ceux qui traînaient, même les tramways à l'époque. Alors là, ça se vendait bien le foin, je me souviens. Ils avaient aussi des moutons chez moi. Mais les moutons, pardon, quand on parle de moutons, on parle de moutons normaux, hein, qui pèsent 40 kg chez nous. C'est des petits moutons de 20 à 25 kg, extraordinairement rustiques, parce que les autres, ils ont toutes les maladies du monde. Oui. Tandis que les autres n'avaient pas de maladie. C'était des. Finalement, des bêtes que. Moi, je trouve que c'était plus payant que d'avoir des moutons qu'il fallait traiter tout le temps. Mais bien sûr, les autres sont plus. Bon.
Vous les éleviez pour la laine, pour
non,
la viande.
Non, on n'a pas pour la laine. Oui, la laine, il y en avait aussi, on les tondait. Le soir, ça se vendait assez peu. Il n'en faisait pas en grand cas, la laine. Il le vendait quand même. Mais le mouton lui-même se vendait assez cher. Vous voyez, ça était plus cher, ça rapportait plus que les bœufs. Pour la raison suivante, c'est que le mouton, un troupeau de moutons double son poids en un an. Tandis qu'un troupeau de bœufs double son poids en 3 ou 4 ans. De vaches, plutôt. Ça, c'était une chose intéressante. Je sais que France avait été. Seulement, pardon, les moutons, il faut quelqu'un qui s'en occupe. Il faut quelqu'un qui ne fasse que ça. Alors, c'est pour ça que la femme du bétailier était payée, si je peux dire. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas la moitié, mais c'était elle qui s'en occupait 8 heures par jour, 4 heures le matin, 4 heures le soir.
Ah oui.
Ah oui, ça, il gagne. Par contre, on ne leur donnait rien d'autre. Ils mangeaient tout ce qu'ils trouvaient. Ce sont des bêtes extrêmement rustiques qui mangeaient même la paille des chaumes et tout ça. Et on les passait dans les prés aussi. Voilà comment ça marchait. Pour les machines, je vous dis, il y en a eu très peu. C'est très tard qu'on les a achetées. Le premier tracteur a été acheté dans les années 50 par de nos voisins. Beaucoup le disaient, il faudrait qu'ils en aient, mais ils avaient peur à cause de ces coteaux. Et le fait est qu'ils en aient eu quelques-uns. Parce que les coteaux sont comme ça et le tracteur se renverse. Cette terre est tout à fait. On avait des fichiers jadis, mais je crois qu'elle retournera à l'état sauvage. À l'état sauvage ou à l'état forestier, du moins. Ou peut-être du maquis, si jamais ce n'est pas du forestier. Parce que les forêts ne poussent pas tout seules, c'est les maquis qui poussent. Voilà. Bon, alors.